Vous savez que l'année 2024, ça va être une année de consécration. On parle là pour les frères et les sœurs, là. Le monde du dehors ne connaissent pas le Seigneur encore, eux autres. Eux autres, c'est pas le salut, c'est le salut qu'ils ont besoin. Mais pour nous, là, qui connaissons le Seigneur, là, c'est le temps de se consacrer. Parce qu'il y a un fleuve, un grand fleuve, là, sur les nations. Puis c'est le fleuve de l'iniquité. Le monde dans le monde sont déjà dedans. On oublie ça. Mais on parle de nous autres, les chrétiens. Si on n'est pas consacré, là, le fleuve va nous emporter. Quand tu vas dans une piscine, puis tu nages jusqu'aux genoux, là, je peux vous dire quelque chose, tu as un bon contrôle. Tu peux reculer, tu peux tourner, tout va bien. Quand tu commences à en avoir à ceinture, là, c'est un peu plus ardu. Mais tu as le contrôle pareil. Et quand tu es ici, c'est encore plus dur. Mais tu as encore le contrôle. Mais ce fleuve-là, là, tu ne touches pas le fond. C'est un courant tellement puissant qui va arriver. Là. On parle des frères et des sœurs. Il faut se consacrer cette année plus que jamais. Plus que jamais, il faut abandonner. Vous savez, ça prend une petite étincelle pour embraser une forêt. C'est tout. Il ne faut pas commencer à regarder le nombre qu'on est ici. Ça peut être décourageant de voir qu'on n'est pas plus que ça. Mais il ne faut pas regarder au nombre. Il faut regarder à l'étincelle que nous avons tous et chacun dans nos propres cœurs. Que Dieu va nous embraser tous et chacun individuellement et ensuite collectivement pour devenir un feu que lui, son esprit va contrôler. C'est lui qui va contrôler. C'est lui qui va faire qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est lui qui va ajouter. C'est lui qui va enlever. C'est lui seul. Amen. Puis vous savez, au cours des années, on en fait des prières. Hein? On en fait des prières, puis on en fait. Mais est-ce qu'elles sont toutes répondues, malgré le nombre d'années qu'on prie pour cette chose, cette situation? On dirait que ça prend du temps que Dieu réponde à nos prières. Fait quand j'ai préparé ce message-là, c'est venu sur mon cœur, il y a sûrement des obstacles à nos prières. Il y en a des obstacles à nos prières, puis c'est ça qu'on va regarder ensemble. Pourquoi qu'on crie tout le temps à Dieu, qu'on crie, puis qu'on crie? Puis pourtant, la parole nous le dit, dans le nom de Jésus-Christ, tu dois être guéri, dans le nom de Jésus-Christ, tu dois dire au démon, sors, puis sors. Tu dois. C'est que la parole est la parole. Mais pourquoi que ça n'arrive pas tout le temps? C'est qu'il y a sûrement des obstacles dans nos prières. Fait qu'on va tomber dans Ésaïe 59. Fait qu'avant toute chose, Seigneur, je te lève ce message, éternel Dieu. Viens parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je m'offre entière à toi, man. De la tête, langue, le corps, tout, là. Je t'offre tout mon être entier, Seigneur Dieu. Puis viens parler à nos cœurs et à moi aussi, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le premier obstacle à nos prières, c'est le péché. C'est la première des premières des premières. Pourquoi que Dieu ne répond pas? Mais pourtant, on peut se dire, je ne suis pas dans le péché, moi. Je ne suis pas en tout. Moi, il me semble que du mieux que je pense, ma vie est assez est droite avec le Seigneur. Puis, tout est correct. Apocalypse 2, 4 et 5. nous dit qu'on a abandonné notre premier amour. On pense tout le temps qu'on a refroidi. C'est pas refroidi, là. C'est que tu l'as abandonné. Point. Tu n'as pas refroidi. Tu as abandonné ton premier amour. Parce que j'ai été voir, puis c'est vraiment ça qu'il veut dire. Tu n'as pas refroidi. Tu as abandonné. Retourne. Retourne où tu étais au début. Retourne à l'âme où tu étais au début. On a le choix de oui ou le choix de dire non. On a le choix d'écouter telle chose, on a le choix de ne pas l'écouter. On a le choix de dire une chose, on a le choix de se taire. Tout nous revient à nous autres en quelque part, là. Jacques 4, 3, on va tourner. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien souvent, sans s'en rendre compte, dans nos prières, on veut vraiment satisfaire nos passions. Le moi, le petit moi. Puis satisfaire nos passions, notre moi, c'est la chair. C'est la chair, c'est tout simplement ça, c'est la chair. Tournez dans Galates 5. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se cacher. C'est évident. Ça va paraître. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Puis quand j'ai préparé ça, ce que j'ai à cœur, c'est que c'est pas souvent qu'on a entendu une prédication sur la chair telle qu'elle est décrite là-dedans. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une par une. Je vous garantis pas, mais je sais que je m'y vais à des places. Parce qu'on lit, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Fait qu'on va partir avec la première. L'impudicité, puis certaines versions, ça va être écrit la débauche. Puis le mot grec, pornia. Fait qu'on le voit tout de suite que ça vient d'un dérivé de la pornographie. C'est des relations sexuelles illicites. Illicite veut dire qui est interdit par une loi morale ou par la loi. L'adultère, la fornication, ça va être des relations sexuelles quand tu n'es pas marié. L'homosexualité, des mœurs d'une lesbienne, une relation avec des animaux, etc. Des relations sexuelles avec un proche parent, des relations sexuelles avec un ou des divorcés. Dans le monde, il n'y a pas de problème, là, ici, là. Le monde le font bien, puis ils le font bien. Ils le font assez bien comme c'est là. Les journées, je veux dire, les temps qu'on vit aujourd'hui, là, il n'y a plus de limite, là. Mais là, on parle dans le monde, dans le cercle chrétien, là. 1 Corinthiens 5, 1. Je vais le lire. Je vais le lire. Ça, c'est quand que Paul réprimande les Corinthiens. Là. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Imaginez-vous, là, les Corinthiens. Là. Paul lui dit, hey, il y a de l'impudicité chez vous. Là. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. À cette époque-là, on le voyait moins. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'était déjà là, là. Imaginez-vous, là. C'était déjà là, là, à l'époque de Paul. 1 Corinthiens 6, 13 nous dit, « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Amen. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Imaginez-vous où ce que ça nous emmène. 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Fait que si tu n'es pas capable de te contenir en étant seul, marie-toi. Aie une femme, aie un mari. C'est ce que la Bible nous dit. Le deuxième, l'impureté. Je vais essayer de les prononcer en grec, là, de akatharsia, qui veut dire une impureté. Au sens physique, veut dire aussi une malpropreté. Puis dans un sens moral, c'est une, l'impureté sensuelle, une luxure. Luxure, je vais vous le dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est des recherches, des plaisirs sexuels pour soi seul. J'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est ce que ça veut dire, la luxure. Des plaisirs sexuels juste pour toi. Pas moins d'un partenaire, là. Pas moins de rien. C'est juste pour toi. Fait qu'il ne faut pas moins d'un commentaire là-dedans. Puis voyez-vous, là, de un à l'autre, là, la dépravation, ça va de plus en plus, là. Ensuite, la prochaine, ça dit une corruption, une dépravation. Une dépravation, c'est un vice de quelqu'un, de quelque chose qui a de mauvaises mœurs ou qui est sans moralité. Romains 1, 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Puis si on continue, c'est là qu'il a dit que les hommes se tournent vers les femmes, puis les hommes vers les hommes. C'est là, c'est ce mot-là, ici. Là. Le prochain, c'est la dissolution, ou certaines versions, c'est le dérèglement. Aselgia, c'est ce mot que ça se prononce, je pense bien, là. C'est une luxure sans bride. Encore là, on sait, je l'ai dit, c'est quoi une luxure? Mais là, c'est sans bride, là. Il n'y a plus de limite. Vous comprenez, là? Il ne faut pas se le cacher, là. On le voit peut-être moins, là. Mais aujourd'hui, c'est de même, là. Les jeunes, là, au primaire, là, vers la fin du primaire, là, cinquième, sixième année, là, apparemment que ça fly par là. Il n'y a plus de limite, les jeunes, là. Ils n'en ont plus. Je ne sais pas, lui, Kevin, tu es jeune, je ne sais pas, tu es au secondaire. T'sais. Il n'y a plus de limite. Il n'y en a plus. Des excès. Être lascif. Lascif veut dire qui incite au plaisir amoureux, sensuel, sexuel ou du libertinage. Dérèglement dans les mœurs de la conduite, en particulier sur le plan sexuel. De l'impudence, ça veut dire que tu manques de pudeur, tu es effronté. L'insolence, dissolue, de la débauche, de la grossièreté. Et des fois, tu vas entendre des gens parler, puis ils parlent mal. Là. Tu sais, c'est, je parle, c'est qu'au point de vue pervers. Là. Tu les entends parler, puis c'est pervers. Tu dis, OK, shut up. Tu sais, mais il y en a bien qui sont de même, qui parlent de même. Là. J'étais de même. Avant, j'arrive au Seigneur, puis j'étais à sa construction, là. Je parlais de comme ça. Mes chums parlaient de moi, on parlait de... C'était le langage qu'on avait. Cru et vulgaire. Puis aujourd'hui, tu n'es même plus capable de regarder la télévision, puis d'avoir une publicité que... Il n'y a plus de limite, là. Il n'y en a plus. Mais, tu sais, c'est comme... Tu vois quelque chose de grave la première fois. Oh, mon Dieu! Mais à force de les voir, puis de les voir, tu deviens comme insensé, puis tu dis... les mains aux apôtres. Non, il faut se lever contre ces choses-là. 1 Thessaloniciens 4, 7. Je vais le lire pour ceux qui veulent prendre des notes. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est ce que Dieu nous appelle. Le prochain qui est la... Ah non, je l'ai lu celui-là. Voyons. Je suis rendu ici. 2 Pierre 2, 7, concernant la dissolution des règlements. Parce que les versets que je vous donne, là, qui suit, là, c'est des versets que la racine grecque de ce mot-là est dedans, est dans le verset. 2 Pierre 2, 7. Et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ses hommes sans frein de leur dissolution. Il parle de Sodome et Gomorre. Mais les gens de Sodome et Gomorre, là, sont à, c'est ça qu'ils vivaient. Une dissolution et un dérèglement total. C'est pour ça que quand arrivé, les anges sont arrivés et ont cogné à la porte, fais-nous connaître ces hommes. Le mot connaître, là, c'est qu'ils voulaient abuser et coucher avec ces hommes-là. Le prochain, idolâtrie. Idololatria, qui veut dire le culte de faux dieux. L'idolâtrie. Des fêtes sacrificielles données en l'honneur de faux dieux. Puis un qui est intéressant, c'est avarice. L'avarice, là, c'est un attachement excessif à l'argent. Le culte à mammon. Puis il y en a des chrétiens et tout qui sont comme ça. Puis il y en a bien dans le monde et tout qui sont comme ça. C'est l'argent, rien que l'argent. Toutes eux autres, leur vie fonctionne par l'argent. Le prochain, magie. La magie, là, c'est ce qui est intéressant, là, le mot grec, c'est pharmakeia, pharmacie, qui veut dire des enchantements, de la magie, l'usage ou l'administration de drogues, de filtres. Puis un filtre, c'est un breuvage, une drogue qu'on suppose à donner pour de l'amour ou en général qui évoque quelques passions. Un filtre, c'est comme une boisson qui va quand même. Écoute, aujourd'hui, là, ils appellent ça des extasies, je pense. L'extasie, la petite pilule, là. Oui, c'est l'extasie, je me semble que c'est ça. C'est marché noir, mais c'était cette pilule-là qu'ils prennent, elle stimule la libido, le sexe. Oui, voilà. Ils appellent ça des filtres. OK? Puis ça existait à l'époque. Ça existait bien, bien loin avant et tout, là. C'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un fléau, ça, là. Les jeunes, ils partent des discothèques, des affaires dans même, là, puis laisse voir mon homme, tout, il va par là. J'ai entendu dire que même dans les discothèques d'aujourd'hui, là, tu tomberas à terre de voir les jeunes femmes comment elles sont habillées. On n'en reviendra pas. Ils sont pas habillés. Point. Des autobus, je sais pas. Aussi, ça veut dire un empoisonnement, de la sorcellerie, des arts magiques, souvent trouvés à liaison avec l'idolâtrie et nourris par celle-ci, des sortilèges, des enchantements. Apocalypse 9, 21. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Là, ils parlent à l'époque, là, de, quand ça va arriver, les tribulations. Là. Ces gens-là, là, malgré tout, il va commencer à avoir des fléaux, ils ne se repartiront pas de tout ce qu'ils font. Fait qu'imaginez-vous ce qu'on va être rendu là, quand l'esprit, là, il va... Ça va être ténébreux, là, sur la terre. Oh, man, oui. Le prochain, inimitié, ou certaines versions qui vont dire rivalité, ectra, ça veut dire une haine. Un ennemi, une inimitié. Inimitié, ça veut dire une aversion qu'on a pour quelqu'un, un dégoût. Il y en a qui, ça y est, c'est un tel point, là, qui, tu sais, tu vas entendre ça, tu me dégoûtes. C'est un dégoût, là, c'est comme... Puis c'est pour ça que Dieu, il dit le péché est inimitié, tu sais. La chair est inimitié contre Dieu. Dieu... Il y a une aversion, puis ça peut durer longtemps, cette haine-là. J'ai rien qu'à penser à papa, comment est-ce qu'il est tellement haï un homme, hein, tu sais. Puis il y en a que des années là, qu'ils se sont haïs, puis ça se pardonne pas. Puis on n'a pas moins d'aller loin, là. On peut aller dans des familles, là, entre frères et sœurs, là. Et nous autres, on vient des grosses familles. Là. On est des générations qui ont eu des grosses familles, pas mal que la gang. Mais tu n'étais pas tout le temps sur la même longueur d'onde avec ton frère et ta sœur, des fois. Puis à tel point que des fois, il y a des haines qui est arrivée. Luc 23, 12. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voyez-vous, là, c'est ce mot-là. Là. Pilate et Hérode se détestaient tellement qu'il y avait une aversion et un dégoût l'un pour l'autre jusqu'à temps qu'ils se liguent ensemble pour crucifier notre Seigneur. Hein? Le prochain, querelle, iris, qui veut dire des luttes, des disputes, des querelles, des contestations, des rivalités, des débats. Comment est-ce qu'il y en a des débats entre frères et sœurs, des fois d'autres dominations, quoi? Le Seigneur, ça veut dire la parole, c'est ça. Puis il est rendu la grosse chicane. C'est la grosse chicane. Puis pas qu'entre frères, entre églises. Entre églises aussi, là. On le voit aujourd'hui, là. Comment ça se fait qu'on a tellement d'églises de gauche à droite, puis on a tellement peu de communion avec nos frères et nos sœurs qui sont dans les autres églises? Un peu. 1 Corinthiens 1, 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chloé, qu'il y avait des disputes au milieu de vous. Tu vois, là, c'est Paul qui parle encore aux Corinthiens, là. Tu sais, il y avait encore ces disputes-là au milieu de vous. Il parle de quoi? Il parle à des chrétiens. Proverbe 17, 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Vous savez c'est quoi une digue? Quand il y a de l'eau, on a des sacs de sable ou whatever. Et quand tu commences une querelle, c'est que la digue, là, t'enlèves un sac. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Le prochain, la jalousie, zélos. Le zèle, jalousie, l'ardeur, un zèle amer. Une rivalité sérieuse. Être envieux de. Jean 2, 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit. Mais il y a deux sortes pour ce zèle-là. Là. Vous allez voir qu'il y a un zèle qui n'est pas bon, puis un zèle qui est bon. Parce que là, c'est là que ça dit, le zèle de ta maison me dévore. Quand il est arrivé dans le temple, là, puis il a pogné les... Chlac, puis il a reviré les tables. C'est là qu'ils se sont rappelés. « Wow, c'est écrit, le zèle de ta maison me dévore. » Jacques 3, 16. « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, bien évidemment, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Il n'y a pas un du désordre. Il va arriver des mauvaises actions. Proverbe 27, 4. « La fureur est cruelle. » Et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie va t'emmener à faire des choses que tu ne contrôles plus. Il y a des gens qui ont tué des frères, des sœurs, la femme, la mari a tué l'homme, plein, à cause de la jalousie. Qui était rendu à un point incontrôlable. Puis même des fous. Écoute, ça fait 32 ans, j'en ai vu de la jalousie entre frères et sœurs dans l'Église. Pourquoi c'est lui qui a ce ministère-là? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui qui fait ci? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est l'autre qui fait? Pourtant, on est frères et sœurs. On sera tous le même Seigneur. Hein? Animosité. Animosité, là, lui, là, le mot grec, c'est thumos. Thumos. Quand je regarde le mot thumos, c'est comme tumeur. Un peu comme une tumeur. Voyez-vous, là, la jalousie, puis regarde l'animosité, qu'est-ce que ça arrive? Ça nous amène à une fureur, à une colère, une irritation, une animosité, une ardente colère, une colère qui est immédiate. Il y en a des gens, là, que ça. ils vont s'estiner ou arriver, mais ça va prendre du temps avant d'arriver à la colère. Puis il y en a d'autres, pow, moi, ça pète, puis ça monte le presto, là, et il est parti de suite. Puis, si c'est incontrôlable, ébouillante, qui subsiste et un accès de rage. Acte 19, 28. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à... OK, ça, c'est quand il est arrivé, là, à Éphèse, là, puis il y avait ceux qui faisaient les statues, là, de Diane la Grande, là, puis ils se sont dit, hey, écoutez, là, ils parlent contre nous autres, eux autres, puis ils se disent de détourner de la foi contre les idoles. Bien, nous autres, là, c'est notre métier, on nourrit notre famille, là. Puis c'est là qu'ils se sont tous réunis à Éphèse, puis ils ont crié, bien, c'est ce mot, cette racine-là, c'est là. Car ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Puis je pense à la parole, je ne sais pas combien de temps qu'ils ont crié, mais ils ont crié longtemps, là. Avec les autorités romaines, ils arrivent et disent « Hey, wow, ce qui se passe ici, vous autres, là, calmez-vous, calmez-vous. » Mais c'est cette haine-là, cette rage-là, cette colère-là. Proverbe 30-33. « Car la pression du lait produit de la crème. » Tu presses le lait, il faut le presser, ça va venir de la crème. « La pression du nez produit du sang. » Il presse tout sur le nez, il va saigner. « Et la pression de la colère produit des querelles. » Ça ne peut pas t'enclairer. Le prochain, dispute. Eritia, un esprit de dispute, des cabales, des disputes, un esprit de parti. Cabale, ça, c'est un mot qui est intéressant, parce que ça, on en a vu partout dans tous les pays, dans toutes les monarchies, puis surtout dans les églises. Le mot cabale, ça implique une conspiration. Conspiration, vous savez c'est quoi? C'est quand tu planes quelque chose par en arrière, là. Secrète. Une conspiration secrète et délibérée. Ça veut dire que tu y penses, là. Contre une personne ou contre un groupe. Les cabales peuvent avoir des conséquences graves sur la vie, la carrière des victimes, et peuvent être difficiles même à prouver puis à contester des fois. Fait que c'est important d'apprendre ça. Puis dans les églises, on en a vu. Chaque split qu'il y a eu dans chaque église, il y a eu des cabales. Il y en a eu des cabales. Ça n'a pas parti tout fort, là. Je vous parle. Ouais, j'ai pas de chance avec elle. Comprenez-vous? Mais c'est ça, des cabales. Ça partait tout en secret. Mais délibérément, c'était voulu. Ça a tout arrivé dans plusieurs églises. Plusieurs églises, ça allait arriver. Presque toutes les églises, ils ont passé par là. Ben, regardez les monarchies, tous les rois qui ont passé, qui se sont succédés, là, les rois d'Angleterre, les rois de France. Lisez les rois. Comment est-ce qu'il y avait des conspirations contre les rois? On n'a qu'à penser à Absalom. Il se tenait à la porte. Puis il prenait tous les méchants. Et puis, c'est ce qu'il disait, la parole. Il prenait des hommes méchants. Viens avec moi. Il n'y en a pas plus ceux qui suivaient David. Là. Oublie ça. Mais c'était tout en secret. David ne savait rien de ça. Quand il l'a su, là, qu'est-ce qu'il a dit? Mais alors, à moi, on est mieux de se sauver, puis ça presse. Les concubines ont toutes resté là, puis lui, ça a parti, puis. Oui. Les prochains, les sectes. Division. Dicostasia. Je vais être bon pour parler en. Pas si hébreu, ça. En grec. C'est une dissension, une division, une sédition. Une sédition, c'est une émeute. Quand tu fais une émeute, c'est une sédition. C'est une meute populaire, une révolte, un soulèvement contre la puissance établie. Voyez-vous? Combien il y en a qui se sont élevés contre le pasteur du Seigneur de l'Église, se sont élevés contre les anciens, contre la vision de l'Église. On a plein de ça. Moi, je ne sais pas contre cette vision-là, mais là, on va faire une sédition. On va faire une sédition, là. Là, on va faire une cabale. On va chercher qui qu'on peut emmener sur notre bord. Puis après ça, puis tout le vol, là. Puis il y a des gens qui vont rester marqués longtemps dans leur vie à cause de ça, là. Puis ça prend du temps à arriver puis demander pardon après ça, là, des choses en même. C'est pas dur de dire à quelqu'un, pardonne-moi, j'ai mal agi. Mais c'est bien plus dur de dire à l'autre, je te pardonne parce que tu m'as fait du mal. Ça va, c'est un bon comme si l'autre. Hein? Moi, c'est elle que j'ai blessée. Là. C'est facile, moi, de dire à elle, là, Denis, je te demande pardon, j'ai vraiment mal agi. Mais elle a été blessée, je ne sais pas combien de temps, hein? Un an, deux ans, avant que je vienne d'aboutir. Faut être vite, faut être prompt pour demander pardon quand on voit qu'on a mal agi. Mais des fois, on ne le voit pas. Des fois, c'est une maladresse. Bien, c'est à toi et à ta droite. Va voir ta soeur. Il faut faire ça vite. Va voir ta soeur. Ça m'a blessé ce que tu m'as dit. Ah, bien, je te demande pardon. Je ne suis pas sûr que je voulais dire. C'était pas mon intention. Mais on attend tout le temps. Puis ça monte des affaires, Il ne faut pas attendre. Mais comme je dis, elle, par exemple, là, me pardonner, là. Peut-être qu'il y a un travail qui est bien plus profond pour elle que pour moi. Moi, c'est tout oublié, là. Je suis sincère. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon. Elle a encore un bout de chemin à faire, là. C'est Dieu qui va travailler dans elle pour venir à bout vraiment de me pardonner. Mais dans le monde, on voit ça aussi. Tu sais, les enfants qui se font violer, tuer, puis tu vas en cours, puis tu vois t'as le violeur, le tueur de tes enfants, c'est comme, c'est affreux, là. C'est comme, ça peut prendre, je sais pas. Mais nous, gloire à Dieu qu'on a le Seigneur pour venir guérir, puis panser ces plaies-là. Les sectes, qui veut tout simplement dire une secte, un parti, un ensemble d'hommes suivant leur propre principe, leur secte, leur parti. On a juste à penser au parti des Sadducéens, le parti des Pharisiens. Entre eux autres, là, rappelez-vous, là, quand ils sont arrivés, puis ils ont fait un conseil, là, puis je pense que c'était Pierre, puis, ou c'est Paul qui était là, je ne me trompe pas. Puis là, il était contre eux autres. Là, il a juste mentionné la résurrection des morts. Mais ça a commencé à chicaner entre les deux parties. Là. Vous vous rappelez cette histoire-là? Les deux se sont partis à chicaner, là. Parce qu'ils savaient. Moi, je crois à ça. C'est ça que c'est, là, des... comment on dit ça? C'est quand il y a une église... voyons, vas-tu le dire, là? Tu sais, des baptistes, on appelle ça des dénominations. C'est ça que c'est. That's it. Un croit à ça, l'autre croit pas à ça, l'autre croit à ci, l'autre croit pas à ça. Tu sais, on peut se réunir ensemble, mais va pas parler de l'enlèvement. Ta parouette, tu vas parler sur le chicane va partir, puis pourtant, tout est à bien, tout est à la main pour un heure de temps. Mais c'est ça que c'est. Dans le fond, une secte, c'est tout ce qui est pas là-dedans. Point. Tout ce qui compte, qu'est-ce qui est écrit là-dedans, devient une secte. Quand tu commences à mettre des lois d'homme, puis des préceptes, puis à rajouter des affaires, à enlever des affaires, c'est une secte. Point final, bâton. That's it. That's it. Le prochain, envie. Phtonos, qui veut dire une envie. Céder, envier, c'est-à-dire pousser à la jalousie. Marc 15, 10. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Quand ils l'ont livré, c'était par envie. C'est ce mot-là. Parce qu'ils sont jaloux de Jésus. Le peuple s'est tourné d'eux autres. Le prochain, ivrognerie, mété, qui veut dire une intoxication, une ivrognerie, une ivresse, une ébriété. Prendre un verre de vin, il n'y a rien de mal là-dedans. Prendre une bière, il n'y a rien de mal là-dedans. Absolument rien. C'est quand tu arrives à l'ivresse que c'est pas bon. Parce que les paroles, là... Tu sais, des fois, là, t'aimes pas quelqu'un, mais tu le dis pas. Ça, ça va bien. Jusqu'à temps que tu sais bien en boisson, toi, t'es une phase de table. Hey, j'ai vu des batailles dans les hôtels, ça n'avait même pas d'allure. C'est comme... Mais c'est là que ça pousse. C'est l'ivresse qu'il faut pas aller. Prendre un verre de vin en mangeant, il n'y a absolument rien là. Mais à un moment donné, tu vas venir que tes paroles vont dépasser. Proverbe 20, le verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont boire de la bière à un point tel qu'ils sont vraiment ivres. Ça va. Mais quand tu mets le fort, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'alcool, mon ami, là. C'est comme... moi, je suis un chasseur, là, mais un orignal, là, qui est sur le rut, là, qui s'en va par la femelle, puis qu'il y a un autre mâle qui s'en vient, là, puis quand les deux mâles, puis, écoute les yeux, là, c'est comme... Faut que tu le vois, c'est une vidéo, les yeux, qu'est-ce qu'ils font? C'est... Mais c'est comme ça, ça. C'est le même. L'effort, il est tumultueux. C'est comme... C'est plus là, là. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Tu vois? Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 23, 31 à 32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Fait que pour nous, chrétiens, faut se tenir loin de l'ivresse. Ça ne dit pas de ne pas boire un verre de vin. Même Paul exhortait Timothée, bois du vin, ça va être bon pour ton estomac. Des excès de table, comos, excès de table ou du boire, les fêtes, les beuveries de nuit qui se terminaient en orgie. Puis ça, c'était fréquent à l'époque de là. C'est qu'il partait. Même Paul, rappelez-vous, dans Corinthiens, Paul l'a dit, il dit, vous arrivez pour manger, puis on arrive, puis vous êtes déjà sur la brosse. Il dit, vous n'avez pas une place pour boire et manger chez vous. Ça n'a pas dit qu'il finit ça là, mais il y a bien des cultes qu'il faisait à des dieux, que ça partait en mangeant. Puis, n'oubliez pas qu'à l'époque, là, pas tout le monde qui pouvait bien manger. Fait quand tu arrivais d'un banquet où il y avait de la bouffe, puis où il y avait de la boisson, mais ça finissait par des orgies, ça finissait comme total. Puis c'est sûr que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Peu importe ce que l'on mange, ce que l'on boit, faut en prendre soin. Faut en prendre soin. Même, je me parle à moi-même, faire des exercices. L'exercer mon corps à dire, tu vas marcher, tu vas te plier, tu vas t'étirer. Vous savez-vous, à un certain âge, le meilleur qu'on peut faire pour nous autres, là, c'est les étirements, c'est le meilleur qu'on peut faire. Parce que tu ne peux pas arriver à aller jouer au hockey sans avoir étiré quelques muscles. Tu vas revenir, mais non, tu ne peux pas. Romains 8, 5, on va tourner toute la gang ensemble. Romains 8. À partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. C'est clair. Si t'aimes un, tu vas être avec. Si tu l'aimes pas, tu ne seras pas avec. Et l'affection de la chair, ce qu'on vient d'énumérer, dans tout ce qu'on a énuméré, si tu aimes des choses que tu fais là-dedans, tu l'affectionnes. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié. Voyez-vous le mot qu'on disait tout à l'heure, inimitié, là? C'est une haine, c'est comme un dégoût. C'est un dégoût, là, contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. La chair ne peut pas se soumettre, elle ne peut pas. C'est impossible. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Fait qu'on en vient à nos réponses, à nos prières. Si on marche dans la chair, comment voulez-vous Dieu répondre à nos prières? C'est parce qu'on vit dans un état de péché. Alors, on doit se repentir. Il y a des choses que c'est peut-être difficile. C'est là que tu as besoin peut-être d'un frère ou d'une sœur à qui tu peux te confier. Et dire, voici, j'ai un problème dans tel domaine. Prie avec moi. Qu'est-ce que la parole nous dit? Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Et les uns aux autres. Tu ne peux pas te regarder par en arrière et te crier à Dieu, Dieu, je te demande pardon, Tu le refais tout le temps, Colin. Tu viens tout le temps à bout de le faire, là, qu'est-ce que tu faisais avant. Ah, Seigneur, je te demande pardon, je ne le ferai plus, Seigneur, je te demande pardon, je sais ça. Ça peut prendre 4 mois, 2 mois, 3 mois, tu viens à bout de le faire encore. Galates 5, 17, je vais le lire. Or, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut tout simplement dire, tu vas obéir à un, ou tu vas obéir à l'autre. Point. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas une zone grise, il n'y a pas une ligne là, qui dit non, tu obéis à un, tu obéis à l'autre. Il y a des domaines que tu vas obéir, et des domaines que tu vas flancher puis tu vas obéir à l'autre. On ne peut pas être parfait, là. C'est pas une question d'être parfait. C'est une question de voir Dieu ce qu'il veut, là. Je ne vais pas le dire tout de suite, parce que je pense qu'on va le lire. En tout cas, Dieu ce qu'il veut, c'est notre sanctification. On l'avait lu. C'est notre sanctification. C'est ce qu'il veut. Mathieu. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est toujours par des passions, par des désirs qu'on vient à bout de flancher dans la chair. Toujours. Des passions, des désirs. Mais notre chair, elle doit être quoi? Crucifiée. Là, comme Christ est crucifié à la croix, elle tout. Le prochain, pourquoi que Dieu peut-être ne répond pas à nos prières, c'est parce qu'on ne demande pas selon sa volonté. Jean 9, je vais lire les versets parce que je ne vais pas finir trop tard non plus. Jean 9, 31. Nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Il faut que je fasse sa volonté à peu près en tout et partout, au moins le plus que je peux. 1 Jean 5, 14, ceux qui veulent prendre la note de la référence, nous avons auprès de lui cette assurance. Bon, j'ai auprès de lui là, une assurance. C'est quoi cette assurance-là? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pardon? Il nous écoute ou il nous entend. Il écoute. Ah, il demande mon enfant, lui, il demande selon ma volonté. Il ne dit pas qu'il répond. Il écoute. Il écoute. Il écoute ta requête. Psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Donc, il faut apprendre à le connaître si on veut faire sa volonté. Puis la seule façon d'apprendre à connaître quelqu'un, pasteur Claude a tellement dit, je ne sais pas combien de fois, il faut que tu poses du temps avec. Plus tu poses du temps avec quelqu'un, plus tu vois les défauts et les qualités. Il y a des qualités dans chacun de nous. Hein? Oui. Le prochain, on va tourner dans Jacques 1. Tournez pas, je vais aller plus vite. Jacques 1, 2 à 4. Il faut être patient. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut être patient quand on demande de quoi à Dieu. Même dans l'épreuve, il faut être patient. C'est peut-être pas évident. Le pasteur peut nous en passer un papier, là, t'sais. Mais il faut apprendre à être patient quand on demande de quoi à Dieu. C'est pas le McDonald's, là, puis je sais pas comment tu l'as dit aussi. T'sais. Des fois, on peut avoir une réponse peut-être qui est vite, mais des fois, ça prend du temps. Ça fait combien d'années vous priez pour vos enfants? Ils sont assis à côté de vous encore? Non. Est-ce qu'ils sont encore pas mal dans le monde? Oui. Oui. Oui, ils sont encore là. Mais on ne lâche pas de prier. On est patient. Jacques 5, 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu à la fin que le Seigneur lui accorda, ce que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Même Job, il a passé de travers, là. C'est dans le fond, là, lui, il n'avait rien demandé, là. Puis il est exemplaire devant Dieu. C'est juste un défi entre Satan et Dieu. C'est un défi qui est arrivé, l'autre est arrivé en haut. Puis cette tabarouette-là, il est capable d'aller là. Puis, hein. Le prochain qui est intéressant, pourquoi qu'on parle, ça n'arrive pas les prières, c'est la relation entre conjoints. 1 Pierre 3, 7, on va surtout parler pour les maris, mais je crois que ça peut aller sur les deux bords aussi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Cette version-là n'est pas bonne. Si on prend la version anglaise de la King James, ça dit un vaisseau fragile. Un faisceau qui est fragile, pas quelqu'un qui est faible, qui... Non, il est plus fragile. L'homme, il a fait l'homme plus fort, émotionnel, peut-être pas émotionnellement, mais il a fait l'homme plus fort, puis il a fait... C'est l'homme qui prend soin de la femme. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Fait que bien souvent... Messieurs, si nos prières n'ont pas répondu, oh chérie, t'es la plus belle. C'est ça que c'est, tu sais. Mais en retour, n'oubliez pas qu'il dit que, femmes, soyez soumises à vos maris. Il y a des femmes qui ne sont pas soumises, bien, pas en toutes, là. Mais si la femme est aimée comme qu'elle devrait être aimée, comme Christ a aimé l'Église, c'est ça qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui, vas-y. C'est ça. Amen. Amen. Le prochain, ça prend aussi des fois. C'est que notre prière n'est pas fervente. Jacques 5, 16. Confessez donc, regarde, il commence là. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, a une grande efficacité. Le mot fervent, là, c'est comme si tu prendrais un pot d'eau, tu le mets sur le rond, sur le poêle, tu l'allumes. Ah bon, c'est encore frette. Ça commence à être chaud. Fervent, c'est ça que ça veut dire. Il faut que ta prière elle devienne de plus en plus chaude, de plus en plus fervente, qu'elle bouille, tout boit, l'amener à ébullition. Tu ne lâches pas, là. Tu ne lâches pas ta prière. La veuve. Fais-moi justice. Hey, qu'est-ce qu'il a dit? Elle me tape ses nerfs, pas cap après, je vois faire justice à elle, fatiguant. Le prochain, souvent c'est le manque de foi. Matthieu 9, 2, et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Voyez-vous, le paralytique, là, c'est pas sa foi à lui qui l'a guéri, c'est la foi de ceux qui l'ont emmené. C'est ça que ça dit, là. Mais quand on voit que la foi est agissante aussi dans la prière, Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. J'achève. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un rémunérateur, c'est quelqu'un qui récompense. Point. Fait que la foi, ça fait gros tout. Puis ensuite, il faut prier en tout temps. Marc 14, 18. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez-vous la chair, comment elle peut être faible? Si on en est dans la chair, on va prier, mais ça ne sera pas fervent. On ne priera pas longtemps. On ne priera pas trop avec de foi. Ça ne sera pas fort, notre affaire. Alors, on va arrêter. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Il y en a peut-être d'autres. Puis le dernier, c'est que Dieu ne répond tout simplement pas. Des fois, on parle des prières, puis Dieu ne répondra jamais à notre prière. Puis on ne verra jamais l'accomplissement de nos prières. C'est plein. Plein de gens ont prié pour des enfants, des situations, sont décédés, sont partis avec le Seigneur, puis pourtant la prière s'est accomplie, mais ils ne l'ont pas vue. Quand elle dit dans Hébreu, ils ont vu plein d'affaires, mais ce n'était pas pour eux autres, c'était pour d'autres générations, mais pourtant, ils ont prié puis ils ont demandé ces choses-là. Mais on va se battre avec Dieu. Nous autres, c'est de persévérer. Si Dieu répond, Dieu répond. Mais des fois, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, puis on ne verra jamais l'accomplissement de nos prières. Mais c'est l'autre génération qui va arriver puis qui va avoir. C'est comme ça. Il ne faut pas se décourager. Dire que Dieu, tu n'as pas répondu de mon vivant. Perdre la foi. Moi, si tu pars avec le Seigneur, toi, tu vas être correct. Dieu va s'arranger quelque chose en arrière. Dieu, je pense que Dieu se rappelle de nos prières pareilles. Amen. Fait que merci, Seigneur, puis on te rend gloire, éternel mon Dieu. Puis, Seigneur Dieu, garde-nous dans tes voies, puis garde-nous bouillants. Amen. Que Dieu vous bénisse.